Bonjour, vous êtes sur Plan B. Aujourd'hui, je reçois Antoine Bueno. Bonjour Antoine.
Bonjour Cyrus.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Tu es conseiller développement durable au Sénat et tu réalises les travaux de la délégation à la prospective.
Alors,
Je
je
pense
les
parmi les
réalise
raisons.
pas. Je les réalise pas, malheureusement, je les suis seulement.
Tu les suis seulement? Ah bah alors on arrête l'émission là. Alors ah bah
Oui,
zut,
je suis vraiment
la
désolé.
tromperie sur la marchandise. Non, non, mais voilà, moi je pense aussi ce qui m'intéressait dans ce que tu fais, outre tes essais, c'est aussi le fait que ça, cette vision-là, un peu de la réalité réglementaire et comment les choses se passent concrètement. En parallèle, donc, on y vient, tu es essayiste, certains disent aussi polémiste, même si on ne va pas, je pense, polémiquer de manière particulièrement virulente
Non, mais
aujourd'hui.
je trouve pas ça péjoratif, polémiste. Je peux accepter le vocable et c'est vrai que j'aime bien l'esprit et le ton de la polémique, mais c'est un terme qui est polysémique. Ça peut être vu de manière péjorative ou pas, et moi je le vois plutôt de manière positive, c'est-à-dire qu'on essaye de secouer un peu les consciences et on alimente le débat public, mais avec de vraies idées, hein, c'est pas juste pour faire le buzz.
Non, non, je t'ai vu dans les interventions, par exemple, avec Camille Etienne et autres, où vous avez des points de convergence et des points de divergence, et bon, là, ça reste des polémiques quand même plutôt constructives au global, j'ai trouvé. On va parler de ton livre que je viens de terminer, Faut-il une dictature verte? La démocratie au secours de la planète, c'est bon de le préciser. Donc la réponse est non, il ne faut pas une dictature verte. Et voilà, moi, tel que je l'ai vécu, je me suis dit, bah, tiens, je me reconnais dans la manière de faire, de s'informer, de quelle source, de faire le tri, ce qui est important, et de le relever, de mettre tout ça en musique. Et dans l'approche, dire, bah, voilà, il y a toutes ces technologies qui vont nous permettre de remédier en partie à la crise environnementale. Donc il y a un panorama assez large des technologies. Mais ça ne suffit pas. La seule technologie ne suffit pas pour ce problème-là. Il y aura aussi des solutions politiques. Et en l'occurrence démocratique, donc je me retrouve on ne peut plus dans cette idée-là, et donc on va parler de tout ça. Peut-être juste, qu'est-ce qui t'a incité d'abord à faire ce livre?
Ah, alors, moi, depuis toujours, non seulement je m'intéresse, mais en plus, je travaille sur le futur. Quand on s'intéresse au futur, c'est assez difficile aujourd'hui de ne pas prioritairement s'intéresser à l'écologie. Parce que, et là, je crois qu'on va partir sur des bases finalement extrêmement saines et même un très large consensus. On peut dire que sans planète viable, ben, il n'y a pas de futur. Voilà. Donc, quand on essaye de se projeter un petit peu dans l'avenir, je crois que la première question aujourd'hui qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on n'est pas très substantiellement, fondamentalement et durablement en train de foutre la planète en l'air? Et si la réponse est oui, ben, ça oriente évidemment toute réflexion sur l'avenir. Et puis, ça les fait finalement tourner un petit peu court, hein, parce que tout dépend de l'horizon de ce qu'on appelle le collapse, donc l'effondrement généralisé. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles cette notion d'effondrement a été l'une des premières ou la première sur laquelle je me suis vraiment avancé en tant qu'essayiste. D'ailleurs, pas la première, j'ai commencé par la démographie, si vous voulez, on pourra peut-être y revenir. Mais bon,
Oui.
il y a deux livres de cela, j'ai sorti une sorte de dictionnaire du futur qui s'appelle bah, tout simplement Futur, notre avenir de A à Z, qui est un gros machin de prospective avec enfin j'espère, tous les très grands enjeux d'avenir. Il y a 40 entrées, c'est vraiment la forme du dictionnaire. Et quand je rédigeais chacune de ces entrées, la première question que j'avais envie de me poser, ou la première phrase par laquelle j'avais envie de commencer, c'est si notre monde ne s'effondre pas, nanana. Donc, on est vraiment sur cette question-là, la question environnementale qui serait l'une des causes, si ce n'est la cause principale de l'effondrement. Et c'est, je pense, la première étape quand on se projette dans l'avenir. Voilà ce qui m'y a conduit, hein, tout simplement, avec évidemment ben, la sensibilité aussi que tout un chacun peut avoir face à la mise à sac d'un environnement qui. Bah, auquel nous devons tout, parce qu'évidemment, sans environnement, c'est un truisme, hein, c'est très tautologique, hein, mais sans cette planète, ben, on ne serait pas là. En plus, si on essaie de prendre du recul, il n'est pas impossible que cette planète soit unique en son genre, c'est-à-dire que vis-à-vis d'elle, nous ayons une responsabilité, je dirais presque cosmique, ou universelle. Et si elle n'est pas unique en son genre, il est très probable qu'elle soit, que ce type de planète soit extrêmement rare. Donc là, on est en train de potentiellement mettre à sac quelque chose qui n'a pas d'équivalent dans l'univers.
On va parler de ton positionnement aussi au sens politique, parce que ça, bah, rien que ça, ça a fait polémique et j'ai l'impression qu'il y a des incompréhensions. Alors quand j'ai commencé à parler de toi aussi sur mon poste, certains ont dit, oh là là, attention, c'est un ennemi déguisé, non, 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 il ne faut pas se laisser avoir. D'autres ont dit, non, non, mais c'est un technosolutionniste. Et inversement, je pense que d'autres, enfin dire, personnes que tu connais, disent, non, non, c'est un gauchiste, etc. Donc, bon,
Oui.
après, c'est le lot un peu des centristes de se faire traiter de tous les noms
Ben
par tout le
voilà,
monde parce
c'est
qu'ils
ça.
cherchent des compromis, quoi.
Voilà. Ben c'est ça. Mais je pense que tu as très bien résumé les choses. Quand on a une position qui est finalement intermédiaire, ben on n'a pas vraiment d'amis, on a des amis nulle part, mais on a des ennemis partout, hein, de droite et de gauche, et c'est exactement ce que je vis. Je suis un peu cabotin, donc je peux dire que ça m'amuse beaucoup, mais ça m'amuse qu'un peu, parce qu'en même temps, c'est aussi fatigant. Et quand il y a l'hémisphère Bueno qui veut vraiment avancer et apporter honnêtement au débat public, c'est fatigant. Parce que on s'arrête sur des punchlines, voilà, des petites phrases, des choses qui ne synthétisent pas du tout, ne représentent pas ma pensée. Et du coup, je suis obligé d'essayer de faire de la pédagogie, de convaincre des gens qui ne veulent pas l'être. Donc, c'est un petit peu problématique. Mais pour dire les choses de manière très, très simple et très concrète, je suis un ennemi de l'anticapitalisme. Soyons très
Voilà,
clairs.
ça parlons.
So,
Arrêtons-nous un
so,
petit moment,
soyons, soyons
on
hyper clairs.
va évoquer des sujets pêle-mêle, mais
Je ne
non,
suis
je te laisse
pas,
développer. Mais...
voilà, je ne suis pas hostile au capitalisme. Je suis même favorable au capitalisme, mais certainement pas au capitalisme débridé, sauvage, libéral, technosolutionniste, c'est-à-dire que je ne considère pas que la technologie soit et de loin l'unique solution, absolument pas. Donc, quand on me dit tu es technosolutionniste, oui, mais peut-être, mais il faut définir ce qu'est le technosolutionnisme. Pour moi, le technosolutionnisme, c'est ne compter que sur la technologie, voire ne compter que ou prioritairement sur la technologie pour mettre en œuvre la transition. Je ne pense pas que ce soit mon cas. En revanche, oui, je suis absolument persuadé qu'on ne pourra pas faire sans la technologie et que pour chacun des volets de la transition, il y aura un aspect technologique qui n'est pas le seul, mais qui est aussi très important, et donc il ne faut pas le négliger.
Oui, non, mais tout à fait. Alors, je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, sur la partie technologique, tu fais une revue quand même assez large dans, on va dire, la partie de ton livre qui vient avant la partie plus politique. Et je confirme, une fois qu'on a lu la partie politique, qu'on voit tes propositions pour appliquer des principes comme le pollueur-payeur, appliquer la démocratie représentative, et tu vas jusqu'au compte carbone. Donc, c'est pour donner un avant-goût à ceux qui ne te connaissent pas. Voilà, on peut difficilement qualifier tout ça de technosolutionnisme. Mais on va y
Non,
revenir sur ces histoires des mesures politiques. Mais...
mais surtout, Cyrus, on m'a collé l'étiquette d'écolo de droite. Enfin, il est arrivé qu'on me taxe d'écolo de droite. Je ne comprends pas. Je veux dire, ça n'a pas de sens véritablement. Les piliers de ce que je propose pour la transition, c'est, on va y revenir ensemble, de la démocratie directe. Que je sache, c'est pas vraiment un truc hyper droitier. C'est même plutôt une idée qui est empruntée à la gauche. Je propose de la redistribution. Alors là, bah, pardon, mais la redistribution, c'est le socialisme, hein. C'est pas le libéralisme, la main invisible du marché. On n'est pas du tout là-dedans. Je propose de la taxe carbone, mais pas uniquement la taxe carbone. Je propose de taxer globalement tout ce qui pollue, quand c'est pertinent, bien sûr, parce qu'après la taxe, c'est un instrument parmi d'autres, un instrument économique parmi d'autres. Il n'est pas toujours adapté, mais je pense qu'il est quand même souvent adapté et souvent optimal. Donc la taxe, c'est pareil. C'est pas du tout de droite, la taxe. Donc ce que je propose fondamentalement est plutôt emprunté à l'univers de la gauche, mais parce que je ne suis pas anticapitaliste, on en revient toujours à ça, je suis taxé de droite. Donc les mots ont un sens, je veux dire, la redistribution, ça a un sens et c'est pas droitier, la démocratie directe, ça a un sens, c'est pas droitier, etc., etc. Donc, il faut remettre le débat.
Arrêtons-nous Arrêtons-nous sur ce sujet des taxes, parce que justement, ça peut être perçu comme une idée de droite au sens, au sens libéral. On internalise les externalités en appliquant des taxes, par exemple sur les billets d'avion. Bah, si on vole trop en avion et que les avions bas carbone n'existent pas encore, peut-être qu'ils n'existeront jamais, mais ça c'est un autre débat. Et ben, on applique des taxes pour réduire. Mais ça s'oppose à une idée plus de gauche qui est celle des quotas. Est-ce que tu peux réagir là-dessus? Parce que bon, on peut parler de la proposition de Jean Covici, probablement polémique, faire réagir de quatre vols dans une vie. Après, le sujet des quotas, c'est plus généralement quelque chose sur lequel c'est plutôt la gauche qui a tendance à travailler, alors que les, effectivement, entre guillemets, les écolos de droite ont plutôt tendance à proposer des taxes. Sachant
Alors,
que moi, je suis plutôt au cas par cas, hein. Je pense qu'il y a des cas où ça s'y prête de faire des quotas et d'autres, c'est des taxes. Mais c'est toi qu'on interviewe.
Cyrus, cette connotation quota à gauche et taxe à droite, je suis hyper honnête avec toi, je ne la connaissais pas. C'est-à-dire que tu m'apprends que les quotas, c'est plus à gauche et que la taxe, c'est plutôt à droite. Pour moi, c'était deux instruments qui avaient des avantages et des inconvénients symétriques, indépendamment de tout jugement politique. Et donc, pour dire les choses de manière très simple, moi, je ne suis absolument pas opposé aux quotas. Et je pense que même pour des raisons d'acceptabilité politique, parfois, les quotas peuvent être plus intéressants que la taxe. Mais je suis quand même très surpris que ce soit plutôt la gauche qui propose des quotas, parce que, il faut être très, très clair sur ce que sont des quotas. Les quotas, ça suppose de créer un marché de quotas. Ça veut dire qu'on émet des quotas qui correspondent à un certain niveau de pollution qu'on détermine collectivement. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Et après, les acteurs qui veulent émettre ou ne pas émettre cette pollution, ils échangent des quotas et donc on crée un marché, c'est-à-dire qu'on crée un système libéral. Sur le plan des principes de cet instrument, je vois aucune raison de penser qu'il serait plus de gauche que de droite. Je dirais, même si on revient à l'épure des notions politiques, le quota, parce qu'il dépend d'un marché, il est plutôt à droite, quoi. Il est plutôt libéral dans l'aspiration. Ça veut dire que les acteurs, de manière individuelle, vont pouvoir déterminer leur niveau de pollution et donc acheter et vendre des quotas, en faire une source de revenus, etc. C'est hyper libéral, c'est beaucoup plus à droite. Alors que la taxe, il y a un côté qui est très jacobin. C'est l'État qui détermine un niveau de taxe, ça fait des recettes et des ressources publiques. C'est pour ça que moi, je suis très favorable à la taxe. Donc moi, je ne savais pas que les quotas, c'était plus proposé à gauche et la taxe plus proposée à droite. Mais instinctivement, je les aurais classés à l'inverse. Tu
Bah,
vois?
l'idée étant, et à nouveau, c'est pas figé dans le marbre, hein, et tu as raison, c'est pas, mais c'est vrai que dans mes milieux de réflexion politique, c'est un peu comme ça que ça se pose, c'est qu'un quota va davantage garantir la justice sociale qu'une taxe, ou soit donc, si on applique des taxes lourdes sur l'aviation, il y a principalement que les riches qui vont pouvoir continuer à voler et les pauvres beaucoup moins. Donc les week-ends low cost à Ibiza, c'est terminé pour les classes moyennes et populaires. Voilà.
Mais ça, c'est une vue de l'esprit, parce que c'est exactement la même chose. Je suis plutôt démuni. J'ai pas les moyens, par exemple, de changer ma chaudière au fioul ou d'isoler ma maison ou de changer de voiture, etc., etc. Dans un système de quotas, bah, il va bien falloir que je puisse continuer d'émettre et donc que je dispose de quotas et donc que je dépense de l'argent pour acheter des quotas face à d'autres gens qui ont les moyens, qui sont donc plutôt riches, qui vont avoir les moyens, eux, de ne pas et utiliser leurs quotas et qui vont pouvoir vendre à des classes moyennes ou populaires des quotas. Donc, ça ne garantit absolument pas la justice sociale, le quota. Mais absolument pas. Et en fait, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que ni le quota ni la taxe ne garantissent la justice sociale. Ou je dirais plutôt, le quota ne la garantit absolument pas et la taxe ne la garantit pas forcément, mais elle peut la garantir parce qu'après, ça dépend de ce qu'on fait du fruit de la taxe. C'est-à-dire que si le fruit de la taxe, ça sert pas à faire de la justice sociale, c'est-à-dire justement pas à faire de la redistribution, ben, la taxe, je suis d'accord, elle favorise plutôt les riches et elle défavorise ceux qui sont moins aisés. En revanche, si le fruit de la taxe, c'est pour ça que moi je le défends, parce que ça permet de créer des silos. Si le fruit de la taxe, je l'utilise pour donner des pompes à chaleur aux gens qui n'ont pas les moyens de les acheter, ou donner des voitures électriques aux gens qui ne peuvent pas se passer d'un véhicule individuel et qui n'ont pas non plus les moyens, etc., etc. Ben, je fais de la taxe aussi un instrument de justice sociale, ce que je peux beaucoup plus difficilement faire avec les quotas.
Mon problème personnel avec les quotas, c'est la difficulté de mise en œuvre aussi. C'est-à-dire, bon, bah, mettons, vous avez droit à X kilomètres en voiture ou X vols en avion ou que sais-je. Une fois qu'on commence à rentrer dans le détail, ah, mais non, mais je dois aller rendre visite à ma famille. Bon, bah, qu'est-ce que ça veut dire famille? Est-ce que cousin germain, ça compte? Est-ce que tante, ça compte? Bon, comment on prouve que tu vas voir ta tante? Bon, et puis, si tu en as besoin pour tes déplacements professionnels ou que sais-je, donc on montrait une usine à gaz, ce qui n'est guère le cas avec les taxes. Et qui plus est, en termes extrêmement pratiques, bah voilà, il faut se dire, à mon avis, qu'est-ce qui a des chances d'aboutir dès l'année prochaine ou dès cette année? L'Union européenne discute, pour reprendre le cas de l'aviation, je ne sais pas pourquoi je fais une obsession là-dessus, pour reprendre le cas de l'aviation, l'Union européenne est en train de discuter de la possibilité de mettre des taxes sur les vols en avion, alors qu'il n'y a rien en cours sur un système de quotas. Donc si à court terme, il y a quelque chose qui doit atterrir, bon voilà, moi c'est ça mon souci.
Mais enfin,
Après, oui.
juste une
Vas-y,
chose,
vas-y.
Cyrus, qui me semble important, c'est que il faut être très clair sur le fait que les taxes, le mot taxe, il donne des boutons aux gens. Les gens ne veulent pas entendre parler de taxes, d'ailleurs moi non plus, hein, je veux dire, quand je dis les gens, c'est moi aussi. Hein. On ne veut pas entendre parler de taxes, on ne veut pas être taxé. C'est une des raisons pour lesquelles aux États-Unis, c'est même pas envisageable en peinture. C'est-à-dire le principe même, l'idée même, alors que c'est poussé par des économistes américains aussi, etc., etc. Mais ils ne veulent pas en entendre parler. Donc pour des raisons politiques, la taxe, elle est bannie. Et donc, ce qui se passe concrètement dans la vraie vie, c'est que quand on arrive à faire quelque chose, on fait un marché carbone pour ne pas taxer. Et donc, c'est ce qui s'est passé en Europe, le marché carbone est une taxe déguisée, puisque ça crée un prix sur une pollution. C'est ce que tu disais tout à l'heure, ça internalise le coût de la pollution de manière différente. Et quand je dis de manière différente, ça veut dire de manière moins visible que la taxe. Et en plus, l'inconvénient du quota, c'est que derrière, bah, il y a tout un marché qui se met en place, donc c'est hyper libéral, etc. Et puis surtout, a priori, sauf si tu fais un système mixte, a priori, ça ne crée pas de ressources pour la puissance publique. Alors, le système mixte, c'est d'émettre des quotas, c'est-à-dire de permettre aux uns et aux autres d'échanger des quotas, mais après les avoir achetés. C'est-à-dire que c'est la puissance publique qui vend des quotas. Et quand on fait ça, alors là, on crée un système mixte, c'est-à-dire que c'est un système de taxes déguisées. Puisque je suis taxé, je dois acheter des quotas pour pouvoir polluer. Donc je dois bien moi-même, en tant qu'individu par exemple, payer comme je paierais une taxe. Et après, derrière, comme il y a un système de quotas, ben, il y a un système d'échange. Alors que dans la taxe nue, la taxe seule, il n'y a pas de système d'échange. Voilà, voilà en gros le panel des instruments économiques qui se présentent à nous.
Je voudrais prendre un cas de figure qui est assez important, qui est le zéro artificialisation nette, mais aussi pour ceux qui aiment la théorie, les auditeurs qui aiment la théorie. On va revenir sur des questions comme la décroissance, l'anticapitalisme, l'effondrement, donc continuez d'écouter. Abonnez-vous aussi, que vous soyez sur Spotify, sur YouTube ou quoi ou qu'est-ce, et partagez nos contenus si vous les trouvez stimulants. Oui, le cas du zéro artificialisation nette, est-ce que quelque part, c'est pas une politique de quotas et une politique de décroissance, en plus d'être bah, une politique issue d'un processus de démocratie directe, donc la fameuse Convention citoyenne pour le climat. Je te laisse développer ta pensée sur, peut-être pour, je pense que quasiment tous les auditeurs, vu le niveau, on va dire, on a des auditeurs qui s'informent assez régulièrement de ces sujets, mais au
Oui.
cas où le zéro artificialisation net, c'est une politique par lesquelles, qui est assez simple, par lesquelles on vise à diviser par deux notre consommation d'espace. D'ici 10 ans et zéro artificialisation nette d'ici 30 ans, c'est-à-dire on consomme moins d'espace qu'on en rend à la nature. Donc concrètement, le béton recule et la nature reprend ses droits. Enfin, s'il faut le résumer, d'ici 30 ans, c'est ça. Donc ça, c'est en théorie. Après, dans la pratique, les élus se grattent la tête pour refaire les
Voilà.
plans locaux d'urbanisme, etc. Voilà. Je te laisse développer un peu de ta
Alors,
vision aussi de cette
non,
politique-là.
mais surtout, ta manière de présenter les choses était très instructive et éclairante aussi pour moi d'ailleurs, puisque tu as commencé par dire, est-ce que ce n'est pas un fruit de la démocratie directe? Ben si, si, parce que c'est proposé par la Convention citoyenne. Alors déjà, si on prend cet aspect-là, on se rend compte que ben, la démocratie directe a accouché d'un truc, par exemple, le ZAN, qui est incroyable, qui est d'un point de vue écologique, qui est hyper ambitieux. Donc ça, c'est sûr, le volet, qu'est-ce qu'on fait de nos institutions vis-à-vis de l'écologie? Est-ce que la démocratie directe est plus mieux-disante, plus performante pour proposer des réformes un peu radicales dans le domaine? Ça, c'est une preuve que oui. Parce que
On peut
c'est.
légitimement, sauf à ce que le tirage au sort ait été truqué, que sur les 150 citoyens, il y avait une majorité de personnes de droite, y compris des gens du
Oui,
Rassemblement national. Voilà.
effectivement, je n'avais même pas vu les choses comme ça, mais c'était à peu près représentatif. Enfin, si on considère que c'est représentatif, en plus, oui, mais ça prouve, peut-être qu'on y reviendra, que, en fait, quand on est directement placé en situation de responsabilité et de prendre soi-même les décisions, ben, je ne sais pas si on peut dire qu'on continue d'être vraiment de droite ou de gauche. Finalement, on devient assez pragmatique et surtout on devient responsable. On compte plus sur quelqu'un d'autre pour agir et pour pouvoir éventuellement cracher dessus si il ou elle ne fait pas ce qu'il faut, ce qui en général est le cas. Donc là, les citoyens, on leur a présenté les choses, les tenants et les aboutissants, la gravité de la situation environnementale, etc., etc. Et ils arrivent à faire du ZAN, c'est-à-dire zéro artificialisation nette. C'est incroyable, c'est même historique et c'est une démonstration. Par l'expérience du fait que la démocratie directe peut vraiment faire la différence par rapport à la démocratie représentative. Alors, ce qui s'est passé après, une fois que les conventionnels ont proposé le ZAN, c'est que, comme toutes les autres propositions de la Convention citoyenne, ça a été réinjecté dans le système traditionnel de la représentation, c'est-à-dire le circuit parlementaire. Et là, j'étais là. C'est-à-dire que pour le coup, c'est mon travail, ça a été mon travail, en tout cas au Sénat, de m'occuper de la loi qui a été le réceptacle de ces propositions, qui était la loi Climat et Résilience. Et je peux te dire que mon immense étonnement, ça a été de voir que le ZAN est passé, malgré l'examen parlementaire. Et je pense, compte
Oui,
tenu
à
de ce
une
qui s'est
écrasante
passé,
majorité aussi, j'ai vu.
oui, parce que, alors, ma conviction, c'est que les élus ne se sont pas rendus compte de ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire que ce sujet-là, hein, le zéro artificialisation net, a été noyé dans un très gros texte, parce que, encore une fois, c'était vraiment le réceptacle de toutes les propositions conventionnelles, donc c'est beaucoup, hein, il y a énormément de choses. Dans ce texte-là, il y avait par exemple aussi le DPE, il y avait les ZFE, les zones à faible émission mobilité, et plein, plein d'autres choses. Donc je pense que le ZAN est passé un peu par, est entré par effraction, c'était le passager clandestin. J'étais très surpris de voir que c'était passé, parce que c'est véritablement révolutionnaire. Pas que à l'échelle de la France, mais même à l'échelle de l'humanité. C'est quand même la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on se dit, on fait une pause là, l'humain a pris trop d'espace ou assez d'espace, et maintenant on s'arrête. Je ne crois pas qu'il y ait d'équivalent. J'ai regardé, hein, dans la législation nationale, il y a un truc qui ressemble un petit peu en Allemagne, mais ce n'est pas tout à fait ça. Enfin, c'est vraiment un truc, un tournant, quoi, un tournant historique. Et donc c'est passé, je dirais, inaperçu, et après. Là, j'ai mieux compris, ça m'a quelque part rassuré sur ma compréhension des phénomènes politiques. Après, ça a été la bronca et la levée de bouclier, trop tard, une fois que la loi était passée, de la part des élus, et surtout des élus locaux, qui se sont aperçus de ce que ça impliquait. Et les implications sont monumentales. Donc là, je passe du coup à un autre volet de la question, parce que tu disais, est-ce que ce n'est pas un fruit de la démocratie directe, c'est ça qu'on vient de traiter là. Après, la seconde question que tu posais, c'est Kesako, en gros. C'est quoi ce truc? C'est-à-dire dans quelle catégorie intellectuelle de la transition on peut le ranger?
Est-ce que c'est pas une politique de quotas et de
Alors,
décroissance au final?
je veux répondre quelque chose de pas trop con. En 2050, c'est zéro artificialisation nette, c'est-à-dire c'est l'objectif final. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas une politique de quotas. Puisque c'est zéro. Donc c'est comme si on était l'équivalent de la neutralité carbone. Donc quand on crée des quotas, par exemple pour le carbone, on crée des quotas avec un planning, un calendrier, pour qu'il y ait de moins en moins de quotas. Et qu'à la fin, ce soit la neutralité carbone, c'est-à-dire à peu près zéro, même si c'est compensé. Ok, je vois ta moue parce que tu penses à la compensation, au fait qu'il y a encore des émissions,
Il
mais
y
qu'elles
a
soient
ça, et
compensées.
puis là, quelque part, bah, on a tant d'hectares qu'on artificialise aujourd'hui, dans 10 ans, c'est 2 fois moins d'hectares, donc vous avez un
Alors,
quota, une enveloppe
c'est
de.
ce que j'allais dire. J'allais dire que en 2050, c'est-à-dire l'objectif final, c'est de plus avoir de quotas, mais on peut considérer, je ne l'avais pas vu comme ça, je vais être très honnête, hein, je ne l'avais pas vu comme ça, mais on peut considérer que pour l'objectif intermédiaire, qui est une réduction du rythme d'artificialisation, division par deux d'ici 10 ans, d'ailleurs moins de 10 ans, d'ici quelques années seulement, on peut considérer que ça, c'est des quotas. Mais c'est une vue de l'esprit aussi, parce que les quotas, c'est quand même un instrument économique précis où on peut échanger des droits artificialisés. Et là, ce n'est pas vraiment le cas. Chaque territoire va disposer d'un nombre et ne va pas pouvoir échanger ses droits artificialisés. Ça serait un système de quotas. Si le territoire A pouvait vendre des droits artificialisés au territoire B, mais ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc, on ne peut pas vraiment considérer que c'est. Voilà. En revanche, on peut dire que c'est de la sobriété à 100%. C'est un
Le terme
système.
qui circule d'ailleurs dans
Ouais.
les milieux politiques, c'est de la sobriété foncière. Voilà.
Voilà, c'est de la
C'est un bon terme.
sobriété. C'est de la sobriété foncière, mais qui est fondée sur de la réglementation, c'est-à-dire que c'est fondé sur de l'interdiction, de l'obligation et de l'interdiction. Et moi, je le regrette. C'est-à-dire que je pense qu'il aurait été beaucoup plus efficace et ça nous aurait évité ce à quoi on est en train d'assister aujourd'hui. Parce que les gens, alors moi je suis aux premières loges, hein, j'en entends parler quasiment tous les jours au Sénat, mais les gens ne sont pas forcément au courant. Là, comme la mise en œuvre du ZAN est hyper compliquée pour les décideurs locaux, pour les élus locaux, on est en train d'aménager le ZAN. Certains diront détricoter, c'est peut-être pas complètement faux d'ailleurs, et d'autres diront aménager. Ça veut dire qu'on essaye de voir comment ce bidule-là, il va pouvoir être très concrètement et réellement mis en œuvre. C'est d'ailleurs ce qui se passe aussi pour le DPE, le diagnostic de performance énergétique pour l'isolation des bâtiments. C'est difficile
Oui.
à appliquer pour un certain nombre de logements concernés, et là il y a un aménagement, détricotage diront certains peut-être encore une fois. Voilà, c'est-à-dire qu'on essaye de voir comment. Ça peut être vraiment concrétisé et appliqué parce que il faut parler de manière très concrète. L'élu local, on lui dit il faut faire de l'attractivité territoriale, il faut développer ton territoire, il faut faire venir des gens, il ne faut pas que les écoles ferment, il faut qu'il y ait des professionnels de santé qui viennent s'installer, etc., etc. Mais tu n'as plus le droit d'artificialiser tes sols. Et donc l'élu local, il dit, je ne sais pas faire, en fait, j'y arrive pas. Et c'est pour ça que moi, j'aurais été beaucoup plus allant sur un système de taxation foncière. C'est-à-dire qu'on taxe potentiellement même lourdement l'artificialisation des sols, c'est-à-dire le fait de faire gagner à l'urbanisme sur la nature. Et inversement, on peut réduire fiscalement tout ce qui est programme ou projet de densité. C'est-à-dire, je réaménage les zones déjà urbaines, je monte éventuellement, je fais de la densité, je réorganise pour éviter d'artificialiser, et j'y suis incité pour des raisons fiscales. Et la fiscalité, elle est extrêmement incitative, et elle aurait évité, parce que le porte-monnaie, je veux dire, on s'adapte très facilement aux contraintes de porte-monnaie, alors que dès qu'on a quelque chose de jupitérien, pour reprendre un terme à la mode, qui relève de la réglementation, comme ce qu'on a fait avec le ZAN, ça pose d'innombrables problèmes, et la réponse immédiate, épidermique du système, c'est de modifier la réglementation. Alors qu'avec un système de taxation, on pouvait beaucoup plus facilement s'adapter, et en plus, on faisait de la recette publique.
Comment tu le configurerais un tel système de taxation pour aboutir au même résultat, hein, je comprends, mais de manière plus
Ah ben c'est très
faisable et
simple.
en faisant plus appel aux forces du marché?
Eh ben c'est très simple. Je veux construire. Je veux construire dans un secteur déjà urbanisé, et par exemple, construire en hauteur pour occuper une dent creuse. Bon, dans un système où on veut limiter l'emprise de l'homme sur le territoire, bah, c'est bien, enfin, je veux dire, c'est mieux. Donc là, j'allège tout ce qui fiscalement va être afférent à ce projet de densification. Inversement, je veux faire un nouveau lotissement. Et donc, je veux gagner sur des zones qui ne sont pas déjà agricoles, parce que, attention, ça c'est un point extrêmement important qui est technique, mais qu'il faut que les gens aient en tête sur le zéro artificialisation net. Le zéro artificialisation net, ça ne concerne pas l'agriculture. Ça veut dire que l'agriculture, on considère que ça n'est pas les terres agricoles, qu'elles ne sont pas artificielles. Les terres agricoles, elles ont le droit de continuer de s'étendre sur les zones, entre guillemets, sauvages. Sur les espaces naturels. Ça n'est pas concerné par le ZAN. Le ZAN, c'est uniquement l'augmentation de l'urbanisme. Donc, je veux construire un nouveau lotissement sur des terres qui ne sont pas déjà urbaines. Là, il y a une taxe qui s'applique et qui va être dissuasive, sauf pour des gens qui ont énormément d'argent. Enfin, ce n'est pas le cas de la plupart des gens, ce n'est pas le cas de la plupart des communes, etc. Et c'est donc extrêmement dissuasif. En revanche, ça peut permettre des projets pour lesquels on va mettre l'argent nécessaire malgré la taxe, parce qu'on considère que c'est hyper important pour le développement local. Voilà la différence entre le système qu'on a adopté et un système de taxation.
Oh, très clair. Je vais profiter aussi de ta connaissance technique du monde politique pour parler du DPE.
Oui.
Là aussi, pour faire très très court, au risque de faire peut-être trop simple, mais ce que ça implique, c'est par exemple, enfin, le calendrier implique qu'à terme, c'est-à-dire d'ici 10-12 ans, on ait rénové un bon 40% du parc de logements, par exemple. Donc tout ce qui est étiquette D, E, F, G, d'ici une dizaine d'années, ce sera interdit à de nouvelles locations. Ce qui implique quelque chose comme quadrupler le rythme des rénovations. Or, voilà, il y a la crise énergétique qui renchérit le coût des matériaux et des travaux, il y a des pénuries de main-d'œuvre, enfin bon, patati et patata. Ça paraît difficilement applicable, même si ça part d'une bonne intention. Là, quelle est ta position sur cette loi-là, qui est aussi un des piliers majeurs de la politique écologique du moment?
Alors là, je peux donner une position à la fois de conseiller au Sénat, mais je peux aussi donner la position d'un citoyen qui est directement concerné. C'est peut-être même plus intéressant parce que c'est de l'hyper concret. À Paris, quand on est propriétaire d'une chambre de bonne, d'un petit studio, etc., et il y a énormément de gens qui ont acheté ce type de bien immobilier pour le louer, pour s'assurer une retraite dans un contexte où le régime par répartition, et ça, tout le monde en est bien conscient, évidemment, est de moins en moins généreux pour des raisons démographiques, etc., etc. Quand vous êtes propriétaire de petites surfaces comme ça, le DPE tel qu'il est configuré aujourd'hui, c'est quasiment inapplicable. C'est-à-dire que il y a deux possibilités. Soit il n'est pas modifié ce DPE, et dans ce cas, ben, les gens qui sont propriétaires de ces surfaces perdent leur investissement de manière pure et simple. Parce que ils ne peuvent pas matériellement mettre aux normes leurs biens. Ce n'est pas possible pour des petites surfaces, ça ne fonctionne pas. Pour gagner une ou deux lettres, il faut perdre un ou deux mètres carrés en faisant de l'isolation intérieure, etc., etc. On a une obligation qui pèse sur les propriétaires individuels, mais pas sur les copropriétés, c'est-à-dire pas sur les collectivités, ce qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, contrairement par exemple aux règles sur le ravalement, il n'y a pas d'obligation qui pèse sur les copropriétés pour faire à un moment donné, à une date donnée, une rénovation énergétique globale. Imposé. En revanche, le petit propriétaire, lui, théoriquement, il doit, à partir d'une certaine date, sinon il n'a plus le droit de percevoir les fruits de son bien, c'est-à-dire de le louer, hein, très concrètement, il doit faire ça. Et donc, si la copropriété ne l'a pas fait, il se trouve face à des travaux qui sont soit totalement inabordables financièrement, soit même techniquement pas possibles, pas faisables. Donc, c'est aporétique. C'est un véritable problème. Je parle d'un cas d'école qui est physique, qui est extrêmement concret. Alors après, là c'est le conseiller au Sénat qui va un peu plus prendre le relais, il y a la question de savoir ce qu'on peut attendre très concrètement et réellement des rénovations énergétiques, et il y a plein d'études qui sont sorties en France, et pas que en France, ailleurs aussi, qui prouvent que les gains sont assez faibles et que malheureusement la rénovation énergétique, ça ne va pas être l'un des piliers de la transition. Le nerf de la guerre, disons la chose la plus importante pour éviter ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire le fait que bah, finalement après une rénovation énergétique, la consommation d'énergie ne chute pas drastiquement, c'est le prix même de l'énergie. Et là, j'en reviens à la question de la taxe. C'est fondamental. On ne pourra pas faire cette transition si on ne met pas en œuvre des instruments de marché, des leviers qui agissent sur les prix des matières premières, les prix en gros de la matière et de l'énergie qui sont les sources de notre économie.
Ouais, on a lu, je pense, les mêmes sources, où par exemple en Allemagne, il y a un voilà. grand chantier de rénovation.
En Angleterre.
Mais les gens en profitent pour chauffer plus chaud chez eux. Voilà, des choses comme ça.
Voilà, mais on chauffe plus quand l'énergie n'est pas trop chère. On chauffe moins quand la facture commence à être salée. Et ça, c'est déterminant. Et c'est pour ça que, quelle que soit la manière dont on s'y prend, il faut jouer sur les prix. Ce sont les prix qui déterminent les comportements. Ce sont les prix qui déterminent les comportements à la fois des consommateurs, parce que évidemment, plus c'est cher, plus je vais être désincité à consommer telle ou telle chose. Et au contraire, je vais même déporter ma consommation sur des biens et des services qui vont être moins chers et qui vont donc être, dans cette optique-là, plus vertueux pour l'environnement. Et c'est aussi les prix qui vont inciter les producteurs à changer leur mode de production. Par exemple, remplacer, j'en sais rien, moi je dis n'importe quoi, une centrale à charbon par une centrale éventuellement à gaz, même si elle émet encore des gaz à effet de serre, c'est beaucoup moins qu'une centrale à charbon. Ou alors une centrale nucléaire qui n'émet pas du tout de gaz à effet de serre, ou des panneaux photovoltaïques, ou de l'éolien, etc., etc. Voilà, l'effet prix. Il est absolument majeur et c'est la raison essentielle pour laquelle je ne suis pas anticapitaliste. Parce que si on est anticapitaliste, on se prive de ce qu'on appelle le marché, on se prive de l'effet prix et donc on se prive du levier majeur, du levier fondamental pour mener à bien la transition environnementale. Indépendamment du fait que le marché, avec de la redistribution, permet d'élever le niveau de vie, c'est aussi le marché qui permettra de rétablir nos équilibres et de nous faire réintégrer les limites planétaires. On ne fera pas sans lui.
On a reçu, bon, parlons-en, Timothée Parik ici. Je ne sais pas dans quelle mesure tu le portes dans ton cœur ou quoi. Bon, on a eu une discussion intéressante. Je ne suis pas d'accord sur tous les points et même sur l'approche. Mais oui, bah, on va dire anticapitaliste. Donc, une proposition comme interdire le statut d'entreprise à but lucratif et avoir une économie de coopérative. Bon, au-delà du fait de est-ce que c'est applicable, quelle est l'échelle, enfin, il faut. Si la France y va seule, je me dis que c'est pas utile. Même si l'Europe y va seule, enfin l'Europe c'est quand même gros, mais même avec l'Europe qui y va seule. Mais au-delà même de l'applicabilité, je me dis quand même cette transition, il y a énergétique, elle est très capitalistique en fait, malheureusement.
Bien
Il y
sûr.
a besoin de capital, il y a
Ben
besoin
évidemment.
que des entreprises, par exemple des énergies renouvelables, en fait fassent fortune. Je suis désolé d'employer le terme, fassent fortune, accumulent du capital, réinvestissent, deviennent puissantes et provoquent la défaite de l'industrie fossile. Enfin, il y a une guerre économique et industrielle à gagner. Et malheureusement, cette transition va nécessiter de mobiliser pas mal de capitaux. L'adaptation au changement climatique aussi va nécessiter de mobiliser pas mal de capitaux. Et donc, il dit capitaux, il dit quand même un peu capitalisme. Mais venons-en. Alors, déjà, je te laisse réagir à ça, à ça déjà.
Ben,
Peut-être parler
moi c'est
aussi de. Enfin, non, je te laisse réagir à ça parce que je
non
voudrais
mais
aussi venir aux questions de dictature.
non mais c'est une évidence. Le
Ouais.
jour où le département de Total Renouvelable gagne plus de pognon que Total Gaz et Total Pétrole, Total va pas faire réfléchir 107 ans pour savoir où mettre ses investissements. C'est une évidence et c'est lié à la question technologique parce que plus on investit dans la technologie, dans l'innovation, plus on fait des découvertes, plus on fait des économies d'échelle, plus ça se répercute sur le marché et donc plus on a des économies sur ce qui est vertueux. Bon, tu m'interrogeais sur Timothée. Timothée Parik, on se connaît, hein, je l'ai rencontré, on a même déjeuné ensemble, on a déjà échangé, donc j'ai un sentiment qui est très violemment ambivalent le concernant. D'une part, j'ai presque une fascination, une admiration pour lui, parce que c'est un esprit brillantissime, hyper brillant, hyper structuré. Enfin, en gros, c'est vraiment tout ce que j'aime. C'est le genre de personne que j'aime. Et de l'autre côté, je trouve que c'est un type extrêmement dangereux. Et pour moi, du point de vue des idées, c'est l'antéchrist. C'est-à-dire que je conserve, parce que j'essaie toujours de faire la part des choses, hein, déjà entre le message et le messager, mais pour moi, ce type a une plaie parce qu'il est extrêmement intelligent et qui met son intelligence au service d'une idée qui est extrêmement dangereuse. En fait, je pourrais presque avoir la même vision, c'est horrible ce que je vais dire, de Timothée Parik que vis-à-vis de théoriciens extrêmement intelligents d'idéologie que j'exècre. Voilà.
Bon, c'est
C'est-à-dire
un
me
peu
dire, ah
violent
ouais,
quand
mais c'est
même,
quand même
mais
c'est des gens très
oui.
cultivés, c'est des gens très structurés, c'est des gens incroyables et qui ont réussi à accoucher d'idées, mais abominables. Et voilà, j'ai ce
Alors,
sentiment
peux-tu
ambivalent.
expliquer quel est le danger, bon, sachant
Alors,
qu'il n'est pas non plus aux portes du pouvoir, que
non, mais
s'il
il a
devait
un
se
écho.
rapprocher du pouvoir, il mettrait de l'eau dans son vin, comme
Non, mais c'est
les
possible.
radicaux le font souvent. Mais
Mais
pourquoi est-ce dangereux quand même? Oui.
il a une audience. C'est dangereux parce qu'il n'est pas aux portes du pouvoir, mais il a quand même une influence et une audience qui est colossale, qui est considérable. Il est accueilli et considéré de plus en plus comme un messie. C'est une rockstar. Dans même les écoles de commerce qui sont quand même censées être un peu capitalistes hein, quelque part, ou les écoles d'ingénieurs, c'est-à-dire la fabrique de l'élite, c'est Timothée Parik en diable, etc., etc. Alors ça, c'est pourquoi c'est dangereux, ben parce que on l'écoute, C'est pas Antoine Bueno qu'on va écouter, hein, mais il est sans doute beaucoup plus
Oui,
sexy
ça
à
pousse la
entendre que moi.
population à se questionner sur le système. Voilà. Enfin,
Bah,
est-ce que c'est pas une bonne chose que les
oui.
écoles de commerce, les ingénieurs se
Par
disent, bon, bah, au
ailleurs,
fait, est-ce qu'il y a
d'accord?
besoin de
Alors,
toujours plus?
non, mais on va rentrer dans le fond. Il est dangereux aussi parce que ce qu'il propose est une arnaque et qu'il avance masqué. Sa manière de présenter les choses est un pur mensonge. C'est-à-dire que s'il arrivait à HEC, ou d'ailleurs il n'y arriverait pas, mais en admettant, en disant moi je propose un système communiste, de type communiste soviétique hardcore, personne ne le recevrait, personne ne l'écouterait, mais ce n'est pas du tout ce qu'il dit. Il dit bah, tout ce qu'on entend là, il faut faire de la sobriété, il faut faire de la coopération, de la fraternité, etc., etc., sans expliquer ce que toutes ces théories impliquent concrètement, ce à quoi elles aboutissent concrètement. Et concrètement, quand on commence à faire de la décroissance, décroissance et sobriété, c'est les mots cool et à la mode, et qui sont les arbres qui cachent la forêt de leur application concrète, c'est-à-dire de la planification intégrale. Concrètement, si on entre dans un système de décroissance, ça veut dire que on détruit le marché. Il n'y a plus de marché possible parce que ce qu'on appelle le marché, c'est-à-dire l'offre et la demande, la rencontre de l'offre et de la demande arbitrée par un prix, n'est possible qu'à partir du moment où il y a un espoir de gain. L'espoir de gain, c'est celui-là, c'est lui qui motive l'épargne, l'investissement, l'entrepreneuriat, l'innovation. Tout ce qui fait la fabrique, le tissu économique lui-même. Ce sont des expériences qui ont déjà très concrètement été tentées. Ça a été la révolution de 17 et toutes les économies communistes soviétiques sont parties de ça. Quand on fait ça, on détruit intégralement toute offre et toute demande arbitrée par un prix. Et donc, il faut, pour allouer les ressources, il faut faire de la planification. La planification, c'est un système qui est hautement inefficace d'un point de vue strictement économique. C'est-à-dire que pour planifier, il faut dire les choses très simplement. Il faut que les gens comprennent que planifier, ça veut dire qu'on se réunit autour d'une table où il y a quelqu'un. Parce qu'en général, c'est comme ça que ça évolue. On commence par se réunir autour d'une table. Et très très vite, il y a une personne ou quelqu'un qui va dire, on fait tant de chaussures. Parce qu'on estime qu'il y a besoin de tant de chaussures et pas plus. Et on va faire tant de chaussures de telle couleur, avec tel lacet. Parce qu'on ne va pas diversifier. Ça, c'est le capitalisme qui diversifie pour répondre à d'éventuelles demandes de marché. Il faut que l'offre s'affine, etc. Ça, c'est le système du marché. C'est pas comme ça que ça se passe dans un système de planification. Il faut, en fait, on est des enfants gâtés du marché, du capitalisme et de la redistribution. Parce que je suis absolument persuadé que s'il n'y a pas cette production de richesse, il ne peut pas derrière y avoir de redistribution, mais que la redistribution, il faut la faire de manière politique, il faut l'organiser parce qu'elle n'est pas automatique, hein, je ne crois pas à la main invisible du marché, etc., etc. Mais je veux dire, au départ, il faut quand même produire de la richesse pour redistribuer. Donc nous, on est tous ces enfants gâtés-là, d'un système qui est social-démocrate, qui nous permet à tous d'avoir à peu près. Et on ne comprend pas que entrer dans un système de décroissance, ce n'est pas refuser d'avoir chaque année un peu plus de gâteau, c'est refuser d'avoir le gâteau lui-même. Parce que la croissance, ce n'est pas un peu plus. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'on a dans la tête instinctivement. La croissance, c'est la dynamique qui fait que chaque année, le gâteau lui-même est produit.
Je te comprends, tu vas faire jaser certains, et d'ailleurs commenter, et n'hésitez pas. Bon, je le trouve un peu dur, et en même temps, je comprends. Bah oui, ça mène, c'est peut-être une des limites que je vois aussi, à, comment dire, une économie extrêmement administrée, peut-être où on s'empêtre dans la réglementation, dans la complexité, parce que le système est complexe, alors qu'il me semble effectivement des mesures comme celles que tu proposais plus tôt, mais on va aussi parler d'autres mesures que tu proposes, sont quand même plus simples à mettre en œuvre et mettre plutôt en mouvement les acteurs, plutôt que de dicter des règles très précises sur ce qui doit être produit, dans quelle quantité, etc. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, sur la décroissance, parce que bon, c'est un des points où on peut aussi achopper, je suis peut-être entre toi et Parik, mais avec tout ce que tu proposes dans ton livre, on a parlé de principe de pollueur-payeur, de redistribution, tu parles aussi de compte carbone. Bref, tout un arsenal de mesures. Est-ce que quelque part, ça mène pas au final à une décroissance, mais par des instruments de marché?
Alors, c'est une question qui est fondamentale. Et de manière plus globale, je pense que la transition environnementale, elle remet en cause la croissance. Voilà, elle remet en cause le capitalisme tel qu'il est, et elle remet en cause la croissance. Et finalement, tout ce qui a été proposé depuis même 50 ans tourne autour de cette idée. Je vais, pour répondre à ta question, présenter mon positionnement à moi. Le fait, dans une logique économique, d'internaliser la pollution, c'est-à-dire d'internaliser la contrainte environnementale dans la production et la consommation, ça fait qu'il est hautement improbable d'imaginer que demain, on continuera d'avoir des taux de croissance forts, tels que ceux qu'on a connus depuis la révolution industrielle. Quand Macron dit « c'est la fin de l'abondance », moi je trouve que c'est pertinent de dire ça. M'en fous que ce soit Macron qui dise, je veux dire, c'est pareil, entre le message et le messager, bon ben, je sais pas, ça m'est égal. En plus, Macron peut avoir des idées, des pensées pertinentes. Bon, il se trouve que là, c'est lui qui le dit. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et en tout cas, quand il dit ça, moi, je comprends ça. Je comprends qu'il veut dire, peut-être que d'ailleurs, lui, il ne le pense pas, ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, ce que je comprends dans cette phrase, c'est qu'on était à une époque, on a vécu toute une période de fiesta. On ne prenait absolument pas en compte l'impact de tout ce qu'on pouvait faire. Ben maintenant, sonne la fin de la récré, c'est fini, on internalise ça. Donc, ben forcément, le taux de croissance, il ne peut plus être aussi important. D'ailleurs, ça a été annoncé ça, par des grandes institutions telles que la Banque mondiale. Il y a eu des rapports qui disent, des rapports prospectifs, qui nous disent on va rentrer dans un monde de croissance moindre. Voilà.
Et pourquoi pas de croissance négative, enfin, oui, on prend les exemples du Japon, de l'Italie, bon, tout va plutôt bien là-bas, ça ne s'est pas effondré, ça fait 20-30 ans qu'ils sont à des croissances zéro, mais
alors,
voilà, entre le changement climatique, entre tous les problèmes écologiques et sociaux et géopolitiques, est-ce qu'on ne peut pas imaginer au final qu'on fasse de l'écologie ou pas d'ailleurs, qu'on fasse tout ce que tu proposes dans ton livre ou tout ce que fait Timothée ou pas, ou tout ce que propose Timothée ou pas, est-ce qu'on ne s'achemine pas de toute façon vers une contraction économique qui est en soi un défi à gérer, hein, écologie ou pas?
Alors en fait, j'avance un peu dans mon propos, puisque j'ai commencé, j'essaye d'être clair. Non, mais c'est normal, mais tu as raison. Mais je commençais par une hypothèse extrême, qui est celle de la croissance forte. Très clairement, la transition environnementale condamne la perpétuation d'une croissance forte. Aussi tout simplement parce qu'un système énergétique, par exemple bas carbone, sera moins performant qu'un système énergétique aux énergies fossiles, a priori, sauf innovation, c'est possible, mais avec les éléments dont on dispose aujourd'hui, on a du mal à imaginer qu'on puisse avoir un système énergétique aussi puissant et donc avoir autant d'énergie à notre disposition, au moins pendant quelques décennies, que ce qu'on avait jusque-là. Donc, comme tout est à base d'énergie, toute l'économie, bah, ça a forcément un impact. Hein. Moins d'énergie, c'est forcément moins de croissance. Donc, oui, on part du début, oui, la transition environnementale et la crise environnementale remettent en cause la croissance forte. Donc, très probablement, on va entrer dans un monde de croissance moindre. Et d'ailleurs, c'est aussi commandé par des logiques purement économiques, qui sont celles du développement. On le voit avec la Chine. Ce qui a toujours été observé, c'est que quand un pays accède au développement, bah, il a des taux de croissance très très forts au début, au moment où il est très très loin des pays qui sont les plus développés. Et plus ça va, plus son taux de croissance s'amenuise. Et donc, c'est aussi ça qu'on observe à l'échelle mondiale. Donc, il y a un certain nombre de facteurs, mais à commencer même par la transition environnementale, qui font que des taux de croissance forts, bah, c'est... On n'a pas de boule de cristal, donc on ne peut pas dire que c'est fini. En tout cas, c'est peu probable que demain, on ait à l'échelle mondiale des taux de croissance tels que ceux qu'on a connus depuis 1850. Bon, voilà. Donc déjà, ça veut dire qu'on entre dans autre chose. Hein. Parce qu'on me dit, tu es un partisan du statu quo. Ben, désolé, hein. Déjà, ce n'est plus du tout le même monde. Hein. Un monde de forte croissance et un monde de croissance modérée, ce n'est plus du tout le même paradigme. Bon.
Rien que préserver le système de protection sociale, les retraites avec 0 ou 1% par an, ce n'est pas la même chose que quand on a 2-3%. Quoi.
C'est... Voilà, c'est plus le même monde. Voilà, c'est plus les mêmes contraintes. Bon. Si on continue ce raisonnement-là, et là j'arrive très précisément au cœur de ta question, Est-ce que finalement, ça ne veut pas dire que demain, bah, il y aura plus de croissance? Et mes opposants disent, non seulement peut-être ça veut dire qu'il y aura plus de croissance, mais c'est même très très bien et il faut qu'on l'organise ça. Bon. Ça n'est pas du tout la même chose d'être dans un monde de croissance flat, c'est-à-dire presque nulle, mais pas complètement nulle, ou de croissance juste faible, et d'être dans un monde de décroissance par opposition à un monde de récession. Attention, il faut être très très clair, les mots ont un sens. La récession,
Oui.
c'est quand il y a une contraction de la production, mais qui n'est pas du tout organisée, qui est subie, alors que la décroissance, j'espère ne trahir aucune pensée,
Notre
même celle
audience
de
est
mes
très au fait de
opposants.
la distinction entre récession et décroissance.
Voilà,
Enfin,
et
tu peux y aller.
donc c'est on décide collectivement que ben, on va produire moins et on s'organise pour ça. Alors, je passe sur les aspects techniques parce que c'est extrêmement difficile de faire ça. De la même manière qu'il est très difficile de garantir un taux de croissance fort, il n'est pas du tout évident de garantir la décroissance sans verser, sans basculer dans le crash économique, hein, parce que c'est ça toute la subtilité du jeu, hein, c'est de surtout pas crasher l'économie en faisant de la décroissance, et à mon avis, c'est impossible. Justement. Alors, pourquoi est-ce que c'est pas du tout la même chose d'être dans un monde de croissance potentielle, même si en fait on est flat, c'est-à-dire on est en état stationnaire, ou alors qu'on a une faible croissance, on n'est pas en état stationnaire, mais il y a un peu de croissance, et d'être dans un système de décroissance, pour les raisons que j'évoquais juste avant, c'est que dans un système de décroissance, tout d'un coup, on fait effondrer tout le château de cartes. C'est pas seulement la croissance elle-même qu'on bat en brèche, c'est-à-dire le un petit peu plus qu'on a chaque année qu'on bat en brèche. Mais c'est parce que on décide qu'on fait une croix sur ce petit peu plus, c'est-à-dire que collectivement, il y a une décision politique pour dire non, demain, nous ne voulons pas qu'il y ait un petit peu plus. Là, ça change absolument tout. Alors, si on le fait à l'échelle d'un pays, c'est le crash immédiat parce qu'il y a toutes les forces vives économiques qui vont se barrer pour aller là où la croissance sera permise, à la fois les travailleurs, les gens, les individus, les riches, les fortunés, mais aussi les capitaux, et on ne pourra plus emprunter sur le marché international, et on ne recevra plus d'investissements étrangers, etc. Et donc, tout ça fait qu'on est obligé de fermer les frontières et de se transformer ipso facto en Corée du Nord. Donc, je ne suis pas certain que ce soit un idéal, et ce n'est pas non plus un idéal environnemental, parce que ce crash-là, ça produit des choses extrêmement violentes socialement, ça peut produire des révolutions, ça peut produire des guerres, et tout ça, c'est pas bon pour l'environnement, hein. On parle très peu du bilan écologique des guerres, mais c'est une catastrophe, hein. Quand les hommes se mettent sur la gueule, ben souvent c'est aussi la nature qui trinque, hein. Il n'y a pas que l'humanitaire. Et par ailleurs, la pauvreté et la misère ne sont pas non plus des bonnes nouvelles pour l'environnement, hein. Il y a un tiers de la déforestation tropicale qui est directement liée à l'extrême pauvreté, parce que les gens, ils se laissent pas crever de faim. Et donc, quand ils n'ont plus rien, quand ils sont complètement démunis, ils se rabattent sur les dernières ressources disponibles, qui sont les ressources naturelles. Donc, tout ça, c'est une catastrophe, sans compter que si on assiste à un crash économique, on perd le contrôle des plus grosses installations industrielles, à commencer par les centrales nucléaires, et que si on perd le contrôle d'une centrale nucléaire qu'on n'est pas capable, plus capable de l'arrêter proprement, bah, c'est Tchernobyl fois le nombre de réacteurs. Donc, tout ça est cataclysmique. Alors, sinon, il faudrait imaginer une révolution décroissante à l'échelle mondiale, hein. Je ne suis pas sûr que la planète ait vraiment le temps d'attendre la maturité de cette idée-là pour avoir le grand soir à l'échelle planétaire. Et puis, en plus, le grand soir à l'échelle planétaire n'éviterait pas le crash global, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, du fait que s'il n'y a plus de perspectives de croissance, il n'y a plus d'innovation, il n'y a plus d'investissement, il n'y a plus d'épargne, il n'y a plus d'entrepreneuriat, il n'y a plus rien qui constitue le tissu économique. Et donc, il faut un Big Brother qui nous explique le nombre de chaussures qu'on doit faire, à qui les attribuer. Et les Big Brother d'avant, en plus, ils étaient productivistes. C'est pour ça que je dis que Parikh, c'est un soviétisme hardcore. Parce que lui, il nous dit, ouais, il faut faire comme avant, mais en plus, il faut peu produire, alors que l'Union soviétique, elle voulait beaucoup produire. Alors imaginez, déjà, ce n'était pas des zones et des pays qui étaient connus pour pour leur abondance, hein. Mais alors, si en plus, on fait la même chose, mais en version déproductiviste ou non productiviste, alors là, je ne veux même pas imaginer à quoi ça ressemblait.
Alors, sans, parce que je suis prudent quand on commence à agiter l'épouvantail de la Corée du Nord pour faire le rapprochement avec la décroissance, mais ma réaction, c'est qu'effectivement, c'est délicat, la manœuvre est délicate, ne serait-ce parce qu'effectivement, un pays qui annoncerait cette sorte de choses, bon, alors, peut-être pas annoncer en grande pompe, ça y est, on va faire décroître le PIB, mais quelque chose qui se rapprocherait de ça, effectivement, déjà, l'État français aurait du mal à se financer sur les marchés, donc tu l'as évoqué. Et on perdrait, on va dire, la confiance de tout un tas d'investisseurs publics, privés, dans l'économie. Donc c'est délicat. Et c'est pour ce genre de raison qui est que moi, la décroissance, je le perçois plutôt, voilà, appliquons-le à des échelles très sectorielles. Bon, bah ok, appliquons une politique de décroissance sur l'occupation foncière. Donc, c'est la sobriété foncière. Bon, pour moi, c'est une sorte de décroissance. Appliquons une politique de décroissance sur la consommation de viande, sur la consommation d'eau, sur... Donc, est-ce que ça fait de ça une politique macroéconomique décroissante?
C'est
Peut-être
ça.
pas, mais pour
Et
moi, on
voilà.
est quand même dans une forme de décroissance physique. Alors, si comme résultat de cette décroissance physique, le PIB continue de croître mollement, à la limite, bon, pour moi, c'est
Moi,
accessoire.
moi, je suis partisan d'une croissance macroéconomique faible. D'abord parce que je suis partisan, c'est comme si je décidais. Je décide de rien du tout, c'est que ça va être imposé par la transition elle-même et des tas de contraintes d'approvisionnement, des matériaux, des contraintes géopolitiques, etc., etc. Donc, de toute façon, on ne le décidera pas. Mais en plus, c'est pas trop mal parce qu'effectivement, une croissance faible permet aussi de gagner un petit peu plus de temps pour mettre en œuvre la transition elle-même. Donc, ça crée un cercle qui est plutôt vertueux. Mais tout à l'heure, jusqu'ici, j'ai essayé de démonter la décroissance sur le terrain économique et sur le terrain écologique. Mais de plus en plus, je m'intéresse à un troisième domaine et j'en parle à des spécialistes de la question qui me disent, mais ils sont fous, c'est la géopolitique. On vit dans un monde, il faut arrêter de faire les bisounours, hein. On vit dans un monde donné, qui a des enjeux géopolitiques donnés. Le jour où l'Europe fait de la décroissance, mais Poutine et la Chine et le Moyen-Orient et les États-Unis, tout le monde, ils se frottent les mains, hein. On se tire une balle dans le pied, on ouvre nos portes en grand, et d'un point de vue géopolitique, c'est un cataclysme pour nous. On ne vit pas dans un monde de bisounours, on vit dans un monde de compétition, de concurrence, où les uns et les autres attendent les faux pas des uns et des autres. Hein. Donc,
Mais
d'un
disons,
point de vue
pour
économique,
retourner
c'est une...
ça, ce serait plutôt favorable à la puissance géopolitique européenne de consommer de moins en moins d'énergies fossiles.
Exactement.
Donc
Et alors, quand...
d'avoir cette
Mais
politique de
exactement.
décroissance-là sur les énergies fossiles en faisant tout le
Mais...
genre de choses que tu as.
Mais...
Alors après, peut-être qu'on est en train de jouer sur les mots aussi, là, avec.
Voilà,
Pardon,
c'est pour ça
peut-être
que moi, je parle pas, je parle de... Je suis favorable à la sobriété et je ne parle pas de décroissance sectorielle parce que la décroissance, je préfère conserver le terme pour le macro parce que sinon, on ne comprend plus.
C'est
On peut
possible, ouais.
s'embrouiller. Donc, moi, je suis favorable à la sobriété, mais dire il y a des domaines de l'économie qui doivent décroître et d'autres domaines de l'économie qui doivent croître, qui peut être contre ça? C'est une évidence. Et par ailleurs, je fais remarquer avec presque malice que c'est ce que le capitalisme fait tous les jours depuis la nuit des temps. Le capitalisme, par sa dynamique, il passe son temps à faire crasher des secteurs au profit d'autres secteurs. Le capitalisme,
Oui,
avec ses nouvelles
mais ce qu'il ne
technologies,
fait pas, c'est faire décroître l'économie physique. Ça s'est pas encore
il ne
vu,
fait
et
pas,
sans le.
il fait croître l'économie physique globalement. Mais dans cette dynamique, à l'intérieur, il y a le secteur des pins et des porte-clés qui va très fortement décroître parce qu'il n'y a plus de demande, voilà. Et puis en face, il y a le secteur de téléphone portable, tout d'un coup, qui va être en plein boom. Et donc, cette dynamique globale, c'est des tas de secteurs qui passent leur vie à croître et à décroître. Et donc, dans le cadre de la transition, on peut décider collectivement avec plein d'instruments. On a parlé tout à l'heure des instruments économiques, mais il y a la réglementation aussi. La réglementation, c'est-à-dire des obligations et des interdictions, c'est pertinent pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Donc, décider comme ça, et ça c'est politique, que bah, certains secteurs, on va les dégonfler au profit d'autres secteurs. Et ça, c'est ça la nature même de la transition.
Peux-tu oh non, mais on pourrait se passer des heures. Quand même, peut-être développer ta proposition de compte carbone, après avoir dit que la décroissance c'est pas bien et tout, mais bon. Ce compte carbone, c'est quand même quelque chose d'assez contraignant quand même.
Oui.
Et tu proposes qu'on y arrive par un processus de démocratie directe. Alors, je pense qu'on ne va pas trop prendre le temps aussi de parler des méfaits énormes de la dictature verte ou pas verte,
Non, c'est pas la peine.
d'ailleurs. Quand j'entends l'expression une bonne dictature, je dis non, mais vous ne savez pas ce que c'est qu'une dictature. Enfin, vous qui avez vécu dans un monde, vous êtes libre de raconter à peu près ce que vous voulez et tout. Enfin, bon, bah, ouais. Non, il n'y a pas de bonne dictature. Les dictatures, le bilan depuis 100 ans, c'est de la corruption, des génocides, de l'incompétence.
Mais
Enfin, voilà, c'est
peut-être
de manière
que Cyrus.
écrasante. Les quelques dictatures qui, on va dire oui, l'exemple de certaines dictatures asiatiques comme la Corée du Sud qui sont présentées comme, oui, c'était pas vraiment c'était déjà des pays en voie de démocratisation, quoi. Bon, parenthèse refermée, mais peut-être que je prêche un convaincu, mais je pense que ça serait
Alors, tu
important de
prêches à
rappeler
couverture,
l'attachement à la démocratie
mais
et aussi
peut-être.
comment cette démocratie que tu veux aller encore plus loin, donc encore plus de démocratie au contraire pour sauver la planète, et comment ça peut mener quand même à quelque chose comme le compte carbone, qui est quand même quelque chose de contraignant, on va dire.
Voilà. Il y avait plusieurs questions. Tu me parlais du compte carbone en me disant c'est une contrainte, etc. Je trouve que l'idée, je voudrais répondre sur l'idée de contrainte qui est importante. La transition environnementale est une accumulation de contraintes. Il faut être très clair là-dessus. Ce n'est pas un chemin de rose. C'est des contraintes là où il n'y en avait pas. Jusqu'ici, on faisait fi des impacts que ça pouvait avoir. Notre activité, notre vie, notre existence, notre développement. Maintenant, avec la transition, en tout cas c'est ce qu'on espère, on fait attention à ça. Donc c'est forcément des contraintes, la transition. On ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Et je dis ça parce que, y a plein de discours qui fleurissent et qui, pour moi, sont très délétères et mensongers, nous disant la transition, c'est fastoche, et puis on a tous à y gagner, et puis ça peut être de la contrainte que pour un certain nombre de gens, en gros les riches, les puissants, les fortunés, etc., mais pas pour les autres. C'est faux. La contrainte, la transition environnementale, c'est forcément de la contrainte pour tout le monde, hein, pour tout le monde. Il y a des bénéfices, des co-bénéfices qu'on peut en attendre, qui sont incertains et qui sont à plus long terme, à commencer par le co-bénéfice de continuer de pouvoir vivre sur une planète habitable, hein, bien sûr, mais il y a aussi des bénéfices sur la santé potentiellement, potentiellement sur l'emploi, parce que la transition, elle va créer des emplois, elle va en détruire, mais elle va en créer. Et donc, si on regarde que les emplois créés, bah, c'est positif, mais bon, il ne faut pas oublier que ça va en détruire. Et donc, il y a des gens qui vont se retrouver sur le carreau et qui ne seront pas forcément réemployables dans les nouveaux emplois créés par la transition. Bon, bref, mais ça va créer des emplois, etc. Donc, il y a des co-bénéfices, mais principalement, il faut comprendre, et c'est aussi ça l'idée de la fin de l'abondance, que oui, c'est des contraintes. Donc, quand on me dit le compte carbone, c'est des contraintes. Et oui, d'accord, ben le compte carbone, c'est des contraintes parce que c'est surtout un outil extrêmement efficace pour décarboner nos vies. Alors, c'est quoi le compte carbone? Alors, c'est le compte carbone individuel. C'est l'idée que chacun dispose d'un montant de carbone à ne pas dépasser chaque année, qui évidemment se réduit chaque année pour arriver à la neutralité carbone dans un calendrier qui est collectivement défini. Et ce compte carbone, il serait d'une extraordinaire efficacité pour changer nos habitudes, parce que on serait en situation de responsabilité comme on l'est vis-à-vis de notre compte en banque, vis-à-vis de nos émissions de gaz à effet de serre. Très concrètement, je vais faire mes courses. Pour payer mes courses, ben, je vais donner de l'argent. Ça, tout le monde connaît, hein, c'est classique, hein. En même temps, ces courses vont correspondre à un paiement en carbone. Donc, ça va venir se défalquer sur mon compte carbone. Si j'arrive à court de carbone, je peux toujours acheter des quotas carbone parce que c'est un système, le compte carbone est un système de quotas. Donc, tu vois, là finalement, je ne savais pas, mais peut-être que je suis à gauche, hein, en proposant le compte carbone. Donc, je vais pouvoir en acheter à des gens qui, eux, ont organisé leur vie pour en émettre beaucoup moins et qui vont faire du compte carbone, du coup, une source de revenus et qui donc vont avoir un intérêt à décarboner leur vie, un intérêt financier, un intérêt économique, et ça va être même un mode de vie et un moyen d'arrondir ses fins de mois, ce qui change complètement la perspective de la transition. Il y a une chose qui est hyper importante pour cette transition, c'est qu'il ne faut pas compter sur la vertu. Si on attend la vertu, bah, ok, on peut avoir ici et là un Yvon Chouinard. Yvon Chouinard qui était le patron de Patagonia. Il y a un homme extrêmement vertueux qui a fait quelque chose d'extraordinaire, puisqu'il a donné son entreprise en gros à la planète en affectant tous les bénéfices à la cause environnementale, etc. Mais voilà, un vertueux, c'est la preuve par l'absurde, je dirais, ou plutôt l'exception qui confirme la règle. Si on attend la vertu, on n'ira pas loin, nous ne sommes pas vertueux, et donc ils font jouer sur l'intérêt bien compris, et le compte carbone, c'est de l'intérêt bien compris, sachant qu'en plus, le compte carbone pourrait permettre pour les enfants et les jeunes, s'ils sont sur le compte carbone de leurs parents, d'accumuler leurs émissions carbone non consommées et de les convertir en argent pour avoir un capital de départ dans la vie. C'est une mesure et une idée absolument fantastique qu'il faudrait absolument mettre en œuvre. Alors, je doute qu'elle le soit malheureusement, parce que, il faut que ce soit porté politiquement, mais dans un système de démocratie directe, et si on explique les avantages de ce système-là, je suis certain que les citoyens voteraient pour. C'est un pari, donc j'ai évidemment pas de certitude, mais voilà en gros ce qu'est un compte carbone. Alors, on pourrait me dire, oui, mais si on arrive à la fin sans carbone et qu'on peut plus se chauffer, on peut plus se nourrir, etc., etc., eh ben, c'est exactement la même chose que quand on arrive à la fin du mois sans argent et qu'on n'a plus de quoi se chauffer ou se nourrir, etc. Là, il y a des systèmes de redistribution. Pour les gens qui n'ont pas d'autre choix, quand ils n'ont plus de compte carbone que pour se nourrir, pour pourvoir leurs besoins élémentaires et essentiels, là, évidemment, le système social doit être capable de faire de la redistribution. Voilà.
Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas le risque que je me fais l'avocat du diable, comme dirait l'autre, que les pauvres se prostituent en vendant, enfin, renoncer à se chauffer et vendre des tonnes de carbone à des riches qui continuent de
Alors,
faire la fête et d'échapper aux contraintes?
c'est pas du tout un risque, ça, c'est plutôt vertueux, mais je parlerai pas du tout de prostitution. Le plus probable en dynamique dans ce système-là, c'est que les deux extrémités du spectre de la population se décarbonent à une très grande vitesse, c'est-à-dire à la fois les très pauvres et les très riches. Les très riches, ils auront les moyens de se décarboner, ils n'auront pas envie de s'emmerder à acheter des comptes carbone, voilà. Ils vont tout de suite voir leur intérêt qu'ils ont à passer à des systèmes décarbonés et eux, ils vendront leur compte carbone, en revanche. Et les très pauvres, les moins favorisés, eux, verront aussi l'intérêt qu'ils ont à faire très attention et à décarboner leur vie très rapidement pour pouvoir en faire un RSA bis. Et donc avoir des compléments de revenus grâce à leur quota carbone, sachant que le quota carbone de Pinault va être exactement le même que le quota carbone du plus pauvre des pauvres. Hein. Donc le gain potentiel en relatif est colossal pour le plus pauvre des pauvres que pour Pinault. Pinault, pour lui, c'est une cacahuète, alors que pour le plus pauvre des pauvres, ça peut représenter quelque chose d'assez substantiel, voire prépondérant dans son budget. Alors qu'au milieu de tout ça, les classes moyennes vont avoir du mal. Elles ne vont pas vouloir spontanément changer leur mode de vie et elles vont même économiquement pas forcément avoir les moyens de tout décarboner. Je pense que ce sont les classes moyennes qui vont acheter des quotas aux très riches et aux très pauvres. C'est ça qui se passerait.
Une autre mesure, toi, qui peut faire encore plus polémique que le compte carbone que tu proposes, c'est pour désinciter à faire des enfants, donner, je ne me rappelle plus du terme, mais une espèce d'allocation aux personnes qui n'auront pas fait d'enfants dans leur
Ah oui,
vie.
alors l'allocation de nulli-parité.
Voilà, oui,
Oui.
c'est chaud quand
Alors.
même. Alors que bon, on est déjà en voie de dénatalité accélérée. Je ne dis pas que je suis contre cette proposition, mais ça m'a frappé.
Frappé, frappé, oui.
Alors qu'on a déjà des problèmes de natalité, voilà, d'équilibre de la pyramide des âges, de vieillissement, dire bah, en plus on va récompenser la population quand elle ne fait pas d'enfants, quoi.
Alors, en fait, mon entrée dans l'écologie en tant qu'essayiste, ça a été par la démographie. Comme je le disais tout à l'heure, moi, je ne suis absolument pas défavorable à la sobriété. Et il faut comprendre ce qu'est la sobriété. C'est quelque chose de complexe qui concerne plein, plein de choses. Souvent, les gens ne se rendent pas compte que la dénatalité est une sobriété. C'est une des formes de la sobriété qui est une sobriété démographique. De la même manière que le ZAN est une sobriété foncière. Bon. Partant de là, ce qui est assez drôle, c'est de constater que la question démographique était vraiment à l'origine du mouvement écologiste et plus du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, on compte plus que sur l'économie, c'est-à-dire le mode de vie, pour transitionner. Et donc, la démographie a été complètement mise sous le boisseau. Et je pense que c'est une profonde erreur, que c'est extrêmement grave. Parce que, évidemment, notre empreinte environnementale dépend aussi de notre nombre. Aujourd'hui, il y a des sophistes très très brillants qui arrivent à démontrer par des arguties que ce n'est pas le cas. Et je maintiens, je persiste et je signe. Ce sont des sophismes Évidemment que notre nombre a un impact sur nos besoins. Un enfant de 5 ans peut le comprendre, hein, plus on est de fou, moins il y a de riz, hein. Et je ne parle pas que du carbone, je parle aussi des besoins en eau, des besoins en énergie, des besoins en matières premières, des besoins en nourriture, etc., etc. C'est une évidence. Et donc, moi, mes propositions, ce n'est pas de faire chuter la fécondité des pays du Nord, qui est déjà, où elle est déjà extrêmement faible, la fécondité. C'est en revanche d'arrêter les politiques nataliste. Qui sont universelles et qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire de faire d'énormes économies, puisque de toute façon, en plus, ces politiques ne sont pas du tout déterminantes, elles ne font pas remonter le taux de fécondité, elles n'ont aucun impact, elles nous font juste perdre de l'argent, un argent qui pourrait facilement être réintroduit, soit pour aider les pays en développement à faire leur transition, soit pour accélérer notre propre transition. Et par ailleurs, dans les pays où le taux de fécondité est fort, c'est-à-dire les pays en développement, les pays pauvres, les pays du Sud, financer le planning familial mondial, c'est-à-dire en gros répondre aux besoins de contraception des femmes qui l'expriment, et il y en a des dizaines de millions chaque année qui déclarent ne pas avoir accès à la contraception qu'elles souhaitent parce qu'elles sont simplement prises pour des poules pondeuses, et faire accéder à l'instruction toutes les petites filles du monde, développer des systèmes de retraite, parce que souvent faire des enfants dans des pays où il n'y a pas de système de retraite, c'est un moyen d'avoir une retraite. Donc, autrement dit, mener une politique féministe, droit des femmes, droit de la planète, même combat pour faire chuter le taux de fécondité et donc l'impact futur qu'on va avoir sur les ressources, et aussi développer les systèmes sociaux. Donc, c'est un aspect extrêmement important de la transition qui est totalement négligé, et c'est un aspect en plus qui est d'une efficience à toute épreuve, parce que c'est une révolution qui se mène avec schématiquement des stylos et des préservatifs. Ça coûte rien pour un gain environnemental qui pourrait être absolument colossal. Il faut bien voir que dans toutes les projections démographiques, même les plus optimistes, on augmente nos besoins seulement avec la démographie, sans prendre en compte le développement, de 25%. Ça veut dire que demain, d'ici à 2050, 2070, on va avoir besoin, en raison de la seule démographie, si on ne fait rien, si on ne fait pas ce que je prône par ailleurs pour avoir un taux d'accroissement démographique nul et neutre très rapidement, on va augmenter de 25% de besoins en eau, de besoins en matières premières, etc., etc. C'est catastrophique. Alors qu'on
Si tant est
pourrait,
qu'il y en ait de l'eau et des
si
matières.
tant est qu'il y en ait, ça veut dire qu'on pourrait régler 25% de la transition environnementale simplement en permettant aux petites filles d'aller à l'école et en donnant des préservatifs ou des stérilets aux femmes qui le souhaitent.
À propos de si tant est qu'il y en ait de l'eau, bon, bah, une dernière question et merci encore de ton dynamisme aussi. C'est une interview assez punchy, c'est chouette. De parler d'effondrement, ton précédent livre, mine de rien, s'intitulait Pourquoi l'effondrement, entre parenthèses, du monde n'aura, entre parenthèses, probablement pas lieu. Alors, je l'ai pas lu. J'ai écouté des interviews de ta part, notamment à la Société française de prospective. C'est une interview d'une heure que, voilà, que je recommande aussi. C'est un bon tour d'horizon. Que dire, bah, qui montrait qu'en fait, enfin, pas comme certains, on va dire, critiques de la collapso, qui en fait ont rien lu, mais non, tout ça c'est des conneries de catastrophistes millénaristes, etc. Non, non, t'as vraiment, t'es allé au fond du truc, quoi, enfin, pour essayer de comprendre. Et t'en arrives cependant à la conclusion que ça n'aura probablement pas lieu. On va pas faire une heure de discussion sur la probabilité de l'effondrement, mais qu'est-ce qui te rend finalement optimiste? Voilà.
Alors déjà, c'est important de parler d'optimisme parce qu'en aucun cas, l'effondrement pourrait être un truc sympa. Il faut quand même bien comprendre de quoi on parle. L'effondrement, techniquement, souvent, c'est une notion nébuleuse, hein, et volontairement de la part de certains auteurs collapso, hein. Pas tous. Je dis pas tous, par exemple, je pense à Pablo Servigne, pareil, que je connais un peu et pour qui j'ai énormément d'estime et presque de l'affection, parce que je pense que c'est un type profondément honnête, même si je suis vraiment pas d'accord avec lui, mais c'est un type bien, en fait. Et pas que lui, sûrement, mais en tout cas, bon, lui, je le connais un peu. Mais qu'est-ce qui me fait penser que l'effondrement n'aura pas. Alors d'abord, c'est quoi l'effondrement? Voilà, on était là. C'est l'arrêt du système industriel. Sachant que nous vivons, pour la plupart des êtres humains sur cette planète, hein, même les plus pauvres, sous perfusion d'industrie. Et que donc, si l'industrie s'arrête, la planète n'a plus de quoi nourrir bientôt 10 milliards d'individus. Et que donc, c'est la population mondiale qui s'effondre. Ça veut dire qu'il y a des milliards de morts. En gros, c'est l'abomination de la désolation. C'est Mad Max, quoi. C'est une horreur. Bon. Qu'est-ce qui permet
Ça peut
de.
être lent aussi, c'est-à-dire
Alors.
une lente diminution
Alors.
démographique, mais un effritement progressif des maisons qu'on abandonne, des villages entiers. On le
Alors,
voit déjà en Chine, hein, des villes, des quartiers entiers qui sont dépeuplés parce que la natalité baisse. Ça peut être plus, pas trop violent aussi, quoi. Mais oui, bon, globalement, c'est pas un processus sympa, oui.
Les termes collapse en anglais et effondrement en français impliquent, d'un point de vue linguistique, une rapidité. Mais les théories du collapse sont plus plastiques et elles admettent des scénarios de collapse rapide ou de collapse qui s'inscrivent dans le temps long, qu'on qualifie de catabolique, c'est-à-dire l'effondrement catabolique par opposition à l'effondrement catastrophique. Catastrophique, c'est immédiat. C'est ce qu'impliquent les notions d'effondrement et de collapse. Mais on peut parler d'effondrement aussi catabolique, comme l'effondrement de l'Empire romain qui finalement s'est étalé. Alors, qu'est-ce qui me rend un peu plus optimiste, c'est-à-dire qui me fait penser qu'en gros, on ne va pas aller dans de tels scénarios? C'est l'analyse très concrète de ce qui pourrait conduire à un effondrement et de constater qu'il y a plus probablement pour chacune de ces causes des évolutions et des solutions qui nous permettront de l'éviter. Pour dire les choses de manière très simple, une des causes de l'effondrement, ça peut être la complexité du monde. Et donc, on pourrait imaginer qu'une grosse crise économique aboutisse à un effritement de l'économie mondiale, donc à un effondrement. Le système économique mondial a prouvé, avec les dernières crises, celle des subprimes et encore plus celle du Covid, qu'il était au contraire extrêmement résilient. C'est très étonnant quand même. On a, avec le Covid, arrêté l'économie mondiale. Et l'année d'après, c'était reparti comme en 14. Enfin, c'est assez incroyable. C'est très, très résilient, ce système-là. Bon.
Oui, j'avais sous-estimé cette résilience.
Voilà. Donc, l'effondrement par la complexité, je n'y crois pas trop. Autre possibilité d'effondrement, c'est l'effondrement par les ressources, c'est-à-dire le tarissement des ressources, le pic pétrolier par exemple, je n'y crois plus du tout. Je pense que les capacités de production pétrolière continueront de pouvoir augmenter, mais que c'est la demande de pétrole qui risque de fléchir avant la capacité à fournir toujours plus d'offres. Et donc, on assisterait à un pic qui est complètement indolore. Et même si ce n'était pas le cas, on pourrait avoir des crises pétrolières de la même, comparables au choc pétrolier qu'on a connu dans les années 70, mais qui n'impliquent pas nécessairement un effondrement global du système. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce que sur la question des ressources, on pourrait écrire 15 livres. Il y a la question des ressources alimentaires, la question des ressources en eau, la question des ressources métalliques, des minerais, absolument clés pour faire la transition, etc. Même là, j'ai des analyses, mais je ne suis pas le seul. Je reprends des analyses de gens qui sont largement plus compétents que moi, qui expliquent qu'il n'y a pas d'énormes raisons de s'inquiéter pour les ressources. Et puis, il y a la dernière cause d'effondrement possible, c'est par la pollution, et en particulier le réchauffement climatique. Alors là, c'est le risque d'effondrement le plus sérieux. Effectivement, si le réchauffement climatique devient incontrôlable, c'est l'effondrement, je suis d'accord. C'est pour ça que je parle de probabilité, mais je ne dis pas que l'effondrement est impossible. D'ailleurs, c'est ce qu'on apprend en prospective. La première chose qu'on apprend, c'est que le réel est tellement dingue qu'on ne peut fermer la porte d'aucun possible et d'aucun futur. Donc, il faut toujours avoir plus d'imagination que ce qu'on est tenté d'avoir dès le départ. Donc oui, l'effondrement est possible, mais pas probable, parce que on peut faire encore quelque chose contre le réchauffement climatique. Et d'ailleurs, les dernières analyses que j'ai lues qui tendraient à dire que les émissions de gaz à effet de serre atteindraient leur maximum, leur pic, dès cette année ou l'année prochaine, vont dans ce sens. C'est porteur de beaucoup d'espoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter et se reposer sur ses lauriers. Au contraire, ça veut dire qu'il faut redoubler d'efforts, mais surtout que c'est possible. Et les Timothée Parik, puisque vous m'en avez parlé, qui prêchent à longueur de temps l'idée que le découplage est impossible, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de la prospérité économique, de la croissance économique et une baisse des émissions de gaz à effet de serre, eh ben, le monde est en train de prouver que c'est possible. Mais vous inquiétez pas, même quand on sera sûr que le découplage est possible, ces gens-là trouveront autre chose pour nous dire qu'on va dans le mur et que de toute façon, ce n'est pas le monde qu'on veut.
De toute façon, il faut bien que ce soit un minimum possible, parce que quand bien même on ferait décroître le PIB, il faudrait quand même faire décroître les émissions de gaz à effet de serre encore plus. Donc, on est supposé faire moins 100% d'émissions de gaz à effet de serre, mais on ne va pas faire moins 100% de PIB. Donc, il faut bien
soyons très clairs. On ne devait compter que sur la réduction de l'activité pour décarboner, il faudrait revenir au niveau de PIB de 1870.
Bon, ce n'est pas ce que propose Timothée, ni ce que
Ah ben.
propose Grandmont, mais ils ne sont pas contre le déploiement des énergies renouvelables, de
Mais
la pompe à
c'est
chaleur,
là
de
que
tout ça.
c'est
Ils
une
disent que ça ne
arnaque.
suffira pas.
Mais c'est là que c'est une arnaque. C'est qu'il n'explique pas que si on entre dans la décroissance, on n'a plus du tout d'innovation. Et donc, on n'a plus aucun autre moyen que la réduction de l'activité, donc un retour à la paupérisation généralisée pour décarboner.
Allez, dernière question sur les questions technologiques. Alors, tu fais une revue technologique assez large des manières de produire de l'énergie différemment, la capture de carbone, et on pourrait en parler, mais pour le coup, je pense qu'on a un auditoire qui est déjà assez en veille sur ces sujets, mais je pense que ton livre est aussi utile pour celles et ceux qui ne sont pas forcément en veille si actifs sur les sujets de état des lieux technologiques, qu'est-ce qui est déployable tout de suite, qu'est-ce qui pourrait être déployable à plus long terme. On ne va pas revenir dessus. Peut-être un sujet, allez, un dernier, on a parlé d'effondrement, comme ça on aura abordé tous les sujets, mais la géo-ingénierie.
Oui.
Alors, j'interviens à une table ronde mardi à Lyon là-dessus. Alors, mardi, là on est le 26 janvier et on va pas diffuser ça le 26 janvier. toujours est-il, non, j'interviens tout de suite, ça commence à frémir, à susciter de l'intérêt. Je vois des étudiants qui m'ont envoyé à l'avance les questions, qui ah oui, la vache, ils ont bossé le sujet. Donc, ça commence à monter, et pas que dans les milieux étudiants et tout, mais des scientifiques, le programme fédéral américain sur la recherche en géo-ingénierie lancé par Biden. Donc ça, alors c'est inquiétant, mais est-ce que c'est pas aussi quelque part un levier pour, je sais pas, atténuer l'effondrement au cas où on dépasserait un petit peu trop les plus de degrés et que le réchauffement climatique soit impossible à s'adapter. Enfin voilà, bon,
Bah
qu'est-ce que tu
ben,
en...
alors, ben Cyrus, ce que tu viens de dire, c'est exactement ma position. C'est très simple. Alors déjà, il faut être très clair sur le fait qu'il n'y a pas une, mais il y a au moins deux géo-ingénieries. Ça, c'est important pour structurer la pensée. Il y a la géo-ingénierie solaire, qui consiste à réduire l'exposition de la planète aux rayons du
C'est
soleil,
de ça dont je parlais, oui.
à la radiation. Ah oui, mais ce n'est pas que ça, la géo-ingénierie.
Oui.
Et il
Il y a
y a
aussi la
la
capture de carbone.
géo-ingénierie atmosphérique, qui consiste à réduire le taux de carbone dans l'atmosphère. Et ce sont deux familles de géo-ingénierie qui n'ont absolument rien à voir. Donc il faut savoir de quoi on parle. Si on parle de la géo-ingénierie solaire, ce n'est pas du tout la même chose que si on parle de la géo-ingénierie atmosphérique, hein. Bon. Le problème de la géo-ingénierie solaire, c'est que n'importe quel Pékin avec vaguement de moyens peut le faire dans son coin, c'est-à-dire que en diffusant du
Oh,
dioxyde
des
de soufre,
aérosols.
et
Ouais,
voilà,
c'est ça.
ou des aérosols quels qu'ils soient dans l'atmosphère avec des avions, voilà. Et d'ailleurs, il y a une start-up, je ne me rappelle plus, on en avait parlé, c'est
Oui,
Rise,
Make Sunsets.
voilà, Make Sunset, qui a commencé à le faire. Donc, le danger, c'est que n'importe qui va le faire, et donc très probablement ce qui est possible est fait, et donc ça va être fait. Mais c'est très dangereux, parce que c'est à la fois accessible à tout le monde, efficace. Et en même temps, c'est potentiellement extrêmement perturbateur. C'est-à-dire que ça peut aboutir à des catastrophes en termes de précipitations, notamment pour la mousson, par exemple. Si en réduisant l'exposition de la planète aux rayons solaires, on change les régimes des moussons, il y a des milliards de personnes derrière qui peuvent crever la dalle, hein, qui peuvent mourir de faim. Donc c'est extrêmement dangereux. Ça, c'est un. Donc il faut être très pédagogue pour expliquer
Ouais, c'est pas
à
un
quoi.
cheat code qu'on a trouvé par magie pour régler tous
Voilà,
nos problèmes sans effort. C'est ça qu'il faut faire comprendre aux gens.
il faut être pédagogue pour expliquer que faut pas y aller quoi, en gros.
Ouais, voilà,
C'est
faut pas y aller.
dangereux, c'est
Faut...
hyper dangereux, donc c'est pas drôle. La géo-ingénierie atmosphérique, là, c'est pas du tout la même chose. Et pour avoir les idées très claires et synthétiques sur le sujet, si on essaye aujourd'hui de capter du carbone dans l'atmosphère pour ne pas réduire nos émissions de gaz à effet de serre, on va droit dans le mur. C'est ce que font les États-Unis aujourd'hui, et donc ça, c'est extrêmement dangereux. En revanche, dire que parce qu'on aura réussi à réduire nos émissions de 60 à 70%, on pourra compléter l'équation, boucler la transition en faisant 20-30% de captation du carbone dans l'atmosphère, à mon avis, c'est inéluctable. C'est comme ça qu'il faut présenter les choses.
Il y a des recherches en ce sens, des
Voilà,
prototypes. Bon, pourquoi pas? Ouais, que dans 50 ans, ce soit
sachant que la cap.
déployé à grande échelle.
Mais attention, quand on parle de captation du carbone, on parle de plein de choses différentes, hein. On parle à la fois de gros aspirateurs, mais aussi de plantes. La reforestation, c'est de la géo-ingénierie, hein. Soyons très très
Oui.
clairs. Le GIEC, dans son cinquième rapport, il parle des BECCS, c'est-à-dire comment on peut faire pousser, avoir des cultures pour ensuite en faire du biofuel et au passage avoir capté du carbone dans l'atmosphère. Bon, ben voilà.
Après, ça occuperait beaucoup de surface dans un monde où aussi
Alors,
les rendements sont sous
ça
stress.
pose
Donc, bon,
plein de
c'est
problèmes, on
peut-être
n'a pas
qu'une
le temps.
solution d'appoint,
Voilà.
mais.
On n'a pas le temps de rentrer dedans, mais en fait, on pourrait consacrer un livre à chacune de ces solutions.
Oui, bah, d'ailleurs, il y a de la littérature scientifique dessus, mais effectivement, ça vaudrait le coup de la vulgariser. Écoute, mais non, merci beaucoup, Antoine. Je t'ai pris 20 minutes de plus que prévu, mais
Merci à toi,
ça aurait
Cyrus.
été dommage de s'arrêter. Merci beaucoup. Et puis, bah, on a parlé un peu du livre, mais aussi beaucoup autour du livre. Et évidemment, on n'a pas dit tout ce qu'il y avait dans le livre, qui est intéressant pour faire un tour du sujet, un panorama.
Bon,
Et puis, bah,
je pense que
vas-y.
tout ce qui a été dit là, tout ce que j'ai dit en particulier, fera grincer un certain nombre de dents. Et aux dents qui grincent, je vous dis, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, de vos contradictions potentiellement aussi, hein, à réagir. Voilà.
Non, effectivement, bah, c'était sur certains cas assez frontal, mais tu l'as évoqué, mais on le voit aussi dans cette interview, mais tu l'évoques dans ton livre, c'est que là, entre comment les politiques se comportent dans les médias, c'est toujours la guerre, et comment ils se comportent en commission parlementaire où on voit des gens de bords différents bah,
Très différent.
résoudre un problème très concret, bah, ils mettent un peu d'eau dans leur vin, ils sont plus constructifs, etc. Donc, au final, c'est comme ça que fonctionne le monde plus que la guéguerre permanente, et encore heureux, mais c'est la démocratie qui le permet. Et je pense que c'est ça aussi, quand même, le message, c'est vive la démocratie, hein, n'oublions pas. Voilà, merci Antoine.
Merci Cyrus.
Bon, au revoir.
À bientôt.